exposé d'aujourd'hui va porter sur les concepts de base du matérialisme historique. On a vu comment, à partir de la critique de l'idéalisme et du matérialisme bourgeois, Marx en arrivait à poser le problème d'un nouveau matérialisme, d'un matérialisme qui se situe dans l'histoire, et d'un matérialisme qui considère l'être en tant qu'être social et non plus en tant qu'individu isolé, atomisé comme dans le matérialisme bourgeois, en tant qu'être qui, dit-il dans les thèses sur Feuerbach, est l'ensemble des rapports sociaux. L'application de ce nouveau matérialisme, on va appeler le matérialisme historique, on le trouve d'abord dans l'idéologie allemande. C'est là qu'on va trouver la première formulation des concepts du matérialisme historique. Il y a une phrase qui résume la démarche, elle est dans l'idéologie allemande, je la cite, à l'encontre de la philosophie allemande qui descend du ciel sur la terre, c'est de la terre au ciel qu'on monte ici. C'est-à-dire que c'est la démarche absolument inverse de celle de la philosophie idéaliste allemande. Alors, partir de la terre, c'est ce que fait Marx. Il veut partir de la base matérielle de l'existence des hommes. Il part de cette constatation, les hommes produisent eux-mêmes leurs moyens d'existence, donc leur vie matérielle elle-même. Et dans l'idéologie allemande que dans d'autres développements, Marx insistera sur le fait que ce qui sépare l'homme de l'animal, qui sépare fondamentalement l'homme de l'animal, c'est qu'il produit lui-même, et il dira même consciemment, ses moyens d'existence. Tandis que même si l'animal les produit, même si certaines espèces animales font quelque chose qui ressemble à un travail, comme les abeilles, les fourmis par exemple, c'est inconsciemment, c'est pas avec d'avance le plan dans leur tête. Tandis que l'homme et l'animal produisent consciemment ses moyens d'existence, consciemment notamment ses outils. L'homme est un producteur d'outils. C'est devenu la tarte à la crème de la psychologie moderne, mais c'est Marx qui, le premier, Engels, ont attiré l'attention sur ce fait. Mais avant même l'outil, il y a une base matérielle à laquelle Marx n'est pas du tout indifférent. Ce sont les conditions naturelles que l'on trouve, que l'homme trouve. Quand je dis l'homme, d'ailleurs, je devrais dire toujours les hommes, parce qu'il n'y a pas d'homme particulier, il n'y a pas d'homme isolé. L'homme est toujours, pour Marx, un homme qui vit en groupe, un homme social, déjà, ne serait-ce que dans la famille. Ce qu'il trouve, ces hommes, c'est d'abord des conditions climatiques, des conditions géologiques, hydrographiques, géographiques, et démographique aussi, alors ça vient des hommes eux-mêmes, de leur masse plus ou moins importante, ce sont des conditions matérielles qui vont déterminer un certain genre de vie, qui vont être dans la détermination, qui vont entrer dans la détermination d'un certain genre de vie. À partir de cette base matérielle, il y a la première approximation dans l'idéologie allemande du concept de mode de production. Marx dit qu'il ne s'agit pas seulement de la reproduction de l'existence physique des individus, mais d'un mode déterminé de l'activité des individus, un mode de vie déterminé. Ce que sont les individus coïncide aussi bien avec ce qu'ils produisent qu'avec la façon dont ils le produisent, c'est-à-dire qu'il est déjà attentif à une certaine façon de produire et non pas simplement au résultat même de la production, mais à la façon dont s'organise la production, dans le mode de production, déjà entre l'idée qu'il n'y a pas seulement la production matérielle elle-même, la production des objets destinés à satisfaire aux besoins, mais il y a la façon dont est organisée cette production. D'où apparaît déjà un nouveau concept qui est celui de force productive. Il n'est pas encore très développé à cette étape, mais tout de même, déjà dans l'idéologie allemande, Marx indique que depuis l'âge de pierre et même la main de l'homme, avant même l'âge de pierre, la main de l'homme est une force productive. La façon dont il se sert de ses mains, dont il a pris l'habitude de faire telle ou telle opération manuelle, c'est déjà une force qui intervient dans le travail et dans la production. Puis se développent évidemment les outils, depuis les outils les plus simples, les plus élémentaires, jusqu'aux outils plus complexes qu'on trouvera alors dans les sociétés développées. Et ce qui le frappe surtout, c'est que il y a une liaison entre le développement des forces productives et la division du travail. Il suit les étapes de la division du travail en notant que toute force productive nouvelle apporte un nouveau développement de la division du travail. Les grandes divisions du travail qu'il note, bon, il y a d'abord évidemment la division naturelle du travail. Il appelle la division naturelle du travail celle qui existe entre les sexes, celle qui existe dans la famille. Et puis, au fur et à mesure que se développent les forces productives, il distingue un travail industriel, un travail agricole, évidemment il faudrait le mettre en premier, un travail agricole, un travail industriel, un travail commercial, une subdivision en fonction de cette division du travail parmi les individus, une différence et même une opposition entre ville et campagne, et une division qui déjà est une division de classe. La division entre les individus est conditionnée par le mode d'exploitation du travail. C'est ainsi qu'il note division entre patriarcat, division à l'intérieur du patriarcat, entre maître et esclave, entre ordre et classe, entre ordre puis entre classe, et très intéressant comme notation, il y a le même rapport dans les divisions des nations entre elles. Ça n'a pas été tellement développé, mais on a déjà l'indication d'une exploitation finalement des nations, certaines nations par d'autres nations. Pas seulement la division du travail, mais déjà presque une division internationale du travail, pas seulement l'exploitation à l'intérieur d'un certain cadre territorial, mais l'exploitation des nations par d'autres, de certaines nations par d'autres nations. En suivant encore dans l'idéologie allemande l'analyse, en même temps que cette division du travail apparaissent des formes de propriété, formes différentes de propriété en fonction de l'évolution des forces productives et de l'évolution de la division du travail. Propriété de la tribu. Propriété, c'est-à-dire commune de la tribu, qui est contemporaine de la division naturelle du travail. Mais dans cette division naturelle du travail à l'intérieur de la famille, il y a 10 mars, et ça il est bon de le noter parce que c'est tout à fait actuel, il y a 10 mars déjà un esclavage latent dans la famille. Esclavage latent de la femme par rapport à l'homme, des enfants. De la propriété attribuée, il passe à la propriété communale, ce qu'il appelle communale, qui est une propriété encore commune, mais s'étendant sur un certain nombre de tribus qui se sont rassemblées. Et puis alors, apparition de la propriété privée, qui est d'abord une forme anormale de la propriété communale, propriété communautaire de citoyens actifs, c'est-à-dire d'hommes libres, dans le système qu'on appellera plus tard le mode de production antique, sur les esclaves. Puis, propriété féodale, qui se distingue de la propriété privée et de la propriété communautaire des citoyens actifs. Et même, il note que dans l'Antiquité, il y a aussi une certaine propriété d'État. C'est vrai qu'il y a des mines qui sont propriétés d'État, exploitées par des esclaves d'État. Dans la propriété féodale, la propriété féodale, elle, part de la campagne. Elle ne se concentre pas dans les villes, au contraire que dans l'Antiquité, elle part de la campagne. Et elle se caractérise par le fait que c'est une suzeraineté militaire qui détient la propriété foncière, la propriété de la terre, qui est la propriété essentielle. Propriété qui s'exerce à l'encontre de petits paysans asservis qui travaillent sur les terres mais qui ont un sort évidemment différent de celui de l'esclave. On reviendra plus longuement tout à l'heure sur les différents stades de la propriété parce que là c'est envisagé sous l'angle de la propriété mais il faut l'envisager sous un angle beaucoup plus général qui est l'angle du mode de production. Les rapports de production, qui n'est pas encore très nettement analysé dans l'idéologie allemande. Mais c'est pour indiquer que déjà nous trouvons une première formulation, une première série d'approches de ce que sera alors le matérialisme historique achevé. Mais ce qui est important dans l'idéologie allemande, c'est pas seulement qu'on y voit l'ébauche des concepts du matérialisme historique concernant la structure, ce qu'on appellera plus tard la structure de la société, mais c'est qu'on y voit aussi l'ébauche, et même quelquefois d'une façon très développée, de la théorie de la superstructure. Vous avez dans ce petit papier qu'on a distribué au verso un organigramme d'un mode de production où on voit en bas, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, les conditions de la vie matérielle de la société, milieu géographique, densité de population, puis l'infrastructure, base du mode de production, force productive et rapport de production, on y reviendra tout à l'heure, mais les formes de propriété dont je viens de parler entrent dans les rapports de production. Et puis il y a la superstructure, on a divisé en deux parties, idées, institutions. Alors, dans l'idéologie allemande, vous avez une première théorie de l'idéologie. L'idéologie est définie par Marx dans l'idéologie allemande comme fausse conscience de la réalité et même d'une façon plus précise, comme conscience inversée de la réalité. Les idées que spontanément se forment les individus dans une structure donnée ne reflètent pas la réalité telle qu'elle est, mais la reflètent en quelque sorte à l'envers. Marx dit même, comme dans une chambre obscure, comme les images sur la rétine, d'abord inversées, et puis le redressement de l'image, il ne vient que par la connaissance. Mais une connaissance qui doit lutter contre l'idéologie dominante, puisque l'idéologie dominante, justement, l'idéologie de la classe dominante, c'est encore une notion que nous trouvons dans l'idéologie allemande, l'idéologie de la classe dominante et l'idéologie dominante. Alors comment s'explique ce rapport inversé? Pourquoi l'idéologie est ainsi définie comme une conscience fausse et une conscience à l'envers par rapport à la réalité? Je crois que pour le comprendre, il faut aller plus loin et aborder la théorie de la conscience que nous trouvons aussi dans l'idéologie allemande. La conscience est d'abord une définition, ne peut jamais être autre chose que l'être conscient. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. Il faudra faire attention d'ailleurs à ce mot détermine, parce que on pourrait en tirer un déterminisme absolu de l'idéologie, une théorie du reflet, qui n'est pas dans Marx, puisqu'il dira plus tard, notamment dans l'introduction au fondement de la critique de l'économie politique, les Grundrisse, ouvrage qu'on connaît depuis assez peu de temps d'ailleurs, il dira qu'il ne s'agit pas d'une réflexion des choses, d'une réflexion automatique des choses dans toute la superstructure, dans les idées que nous faisons. Mais la conscience, qu'est-ce que c'est? Alors Marx, il a pour la définir, il a toute une approche de la conscience, une théorie assez remarquable, une formule ironique. Il dit « Une malédiction pèse sur l'esprit, il est entaché de matière. » Mais ce n'est pas du tout la théorie du matérialisme vulgaire, selon laquelle on secréterait de la pensée comme l'estomac, ou comme le foie plutôt sécrète la bile. On trouve chez les matérialistes vulgaires une espèce de sécrétion matérielle de la pensée. Pas du tout ce que dit Marx. Mais il note que finalement il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de conscience, sans qu'il y ait certains éléments matériels. Ces éléments matériels, c'est une couche d'air agitée par les sons. C'est-à-dire que la conscience n'est pas séparable du langage. Il n'y a pas de conscience sans parole, il n'y a pas de conscience sans un développement du langage, ce qui est très moderne comme théorie de la conscience. Et ce langage, il n'apparaît qu'avec le besoin de contact, dit de commerce, le besoin de communiquer avec d'autres hommes, et évidemment la communication avec d'autres hommes, elle est d'abord nécessitée par le travail en commun. C'est-à-dire que le langage est un produit social, et la conscience aussi est un produit social. Selon lui, il y a d'abord conscience grégaire, c'est-à-dire qu'il y a très peu de conscience personnelle, conscience d'appartenance à un groupe,
mais qui n'est pas individualisé. Puis la conscience se perfectionne dans la division du travail, de même que le langage se différencie aussi dans la division du travail, se développe dans la division du travail. Et c'est au moment où on atteint la division entre le travail matériel et le travail intellectuel que la conscience, dit Marx, peut s'émanciper du monde et passer à la formation de la théorie pure, théologie, philosophie, morale, etc. Et comme elle s'est émancipée du monde matériel, comme il y a eu division entre le travail de tous les jours, le travail manuel, si vous voulez, enfin le travail matériel en général, et le travail intellectuel, on peut s'imaginer que la conscience produit toute seule, sans rapport avec le monde, avec tous ses conditionnements matériels, qu'elle produit toute seule ses pensées, que ses pensées sont absolument indépendantes d'une réalité qui n'est pas la conscience. Et c'est une des raisons de l'inversion de l'idéologie, parce que justement ce cheminement réel de la production, de la vie matérielle à la formation de la conscience, à la différenciation, au développement d'une conscience, ce cheminement, il est oublié. Et la conscience inverse la démarche réelle, et elle se croit productrice tout à fait indépendante des idées, des représentations, etc. Marx donne dans l'introduction dont je vous parlais tout à l'heure, l'introduction au fondement de la critique d'économie politique, un exemple qui illustre très bien cette idée de l'inversion par l'idéologie, de l'inversion dans l'idéologie. Il y a d'ailleurs encore d'autres raisons. Il parle des Robinsonades. Les Robinsonades, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, de tous ces philosophes, de tous ces écrivains qui imaginent les premiers hommes, le premier homme, comme un individu isolé, qui produit tout seul, à partir de lui-même, non seulement ses pensées, mais toute une société, toute une civilisation, etc. Bon, c'est l'histoire de Robinson Crusoe. On oublie complètement que Robinson Crusoe, tout ce qu'il crée dans son île, il l'apporte finalement de l'extérieur, il l'apporte du dehors. Et quand les philosophes raisonnent à partir de l'individu, en fait, ça n'est pas de la réalité qu'ils parlent, c'est d'une certaine réalité. Mais c'est d'une réalité future, et non pas de la réalité de l'histoire dont il parle, ni même de la réalité présente. L'individu isolé, il existera, mais dans la société bourgeoise. Il préfigure en quelque sorte la société bourgeoise, dans leurs imaginations sur les droits, les pensées, la raison individuelle, etc., alors que ça n'a jamais existé dans les sociétés primitives. Le bon sauvage de Rousseau, par exemple, ça n'a jamais existé, mais c'est une façon d'inverser. C'est encore une représentation inversée de la réalité. Ils mettent dans le passé ce qu'ils veulent pour une société nouvelle, ce qu'ils veulent qu'il pressente, non seulement ce qu'il pressente, mais ce qu'il prépare dans toute la philosophie du 8e siècle. Alors nous avons donc cela dans l'idéologie allemande, déjà les prémices d'une conception de la société qui part d'une certaine base matérielle et qui développe toute une série d'idées. Mais ces idées, qu'il s'agisse de morale, qu'il s'agisse de religion, qu'il s'agisse de métaphysique, n'ont pas d'autonomie. N'ont pas d'autonomie, dit Marx, alors qu'elles croient avoir une autonomie. Alors que le moraliste pense qu'il crée la morale tout seul, que le philosophe croit qu'il crée la philosophie, le métaphysicien, etc. En fait, c'est parce qu'il y a cette séparation entre la conscience émanant du travail intellectuel séparé du travail matériel, enfin, il y a cette séparation et cette inversion, mais il n'y a pas d'autonomie véritable, enfin, il faut toujours lire les productions intellectuelles des hommes à partir des productions matérielles des hommes. C'est la position la plus tranchée. On verra que par la suite, il y a des corrections apportées à cette position. Mais il est bon de les connaître. Connaître d'abord la position de départ. Alors nous avons dans la préface, la fameuse préface à la contribution à la critique, c'est pas la même chose. La préface à la contribution à la critique de l'économie politique de 1859. La formulation achevée du matérialisme historique. Un texte qu'on devrait tous savoir par cœur. D'ailleurs, on le sait en général. Or, j'en lis quelques phrases. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement donné de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base réelle, sur quoi s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Alors, je ne vais pas continuer de lire, mais c'est ça le concept de mode de production. Le concept de mode de production, c'est l'unité entre rapport de production et force productive. Unité contradictoire. Alors, les forces productives, maintenant, on peut peut-être revenir un peu dessus, les détailler, et détailler un peu les rapports de production. Les forces productives, ce sont d'abord les moyens de production. Moyens de production, ce sont les éléments donnés dans la nature. Terre, sous-sol, forêt, mer, fleuve, etc. Même le vent, l'air, enfin, tout ce dont on se sert, tout ce peut se servir et qui est déjà donné dans les éléments naturels pour produire. Les moyens, les forces productives proprement dites, ce sont les outils et toutes les forces motrices utilisées par l'homme. Électricité, vapeur, bien sûr, d'abord. Vapeur, électricité, énergie atomique, sont des forces productives. Mais, et ça le Capital le précisera, dans le Capital, Marx le précisera, il faut aussi comprendre dans les forces productives l'organisation même du travail. Le regroupement des ouvriers en fabrique crée une force productive infiniment plus grande que le travail isolé des ouvriers, chacun dans leur, à leur domicile. En usine, autour de machines de plus en plus perfectionnées, l'organisation du travail, la rationalisation du travail est une véritable force productive. Marx avait déjà noté que la science entre dans la formation des forces productives. Et ce mouvement ne fait que s'accentuer. La science est devenue une force productive directe, à tel point qu'on ne peut pas concevoir l'industrie moderne sans la science, sans un développement même, non seulement de la recherche appliquée, mais de la recherche fondamentale. Oh, il y a des laboratoires maintenant de recherche dans les grandes entreprises, les grandes firmes, et dans ces laboratoires de recherche, on ne fait pas seulement de la recherche appliquée, on fait même aussi de la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, de toute façon, fait partie de cette aide de l'État au développement de l'économie. Alors on y viendra peut-être un peu tout à l'heure. Alors, ces forces productives sont nécessairement en rapport avec un type donné de rapport entre les hommes dans la production, et même avec l'ensemble de la formation sociale. Par exemple, le très faible développement des forces productives dans les sociétés primitives est cohérent et correspondant avec l'absence de propriété privée des moyens de production, avec l'inexistence de classes antagonistes. Et ça, on n'a pas le temps de s'y attarder, mais enfin, ça se comprend de soi-même. Quand il n'y a pas de possibilité de conserver des subsistances, qu'il faut se servir au tas, bon, il n'y a pas de propriété privée qui tienne, il n'y a pas de raison d'entretenir une propriété privée, il n'y a pas de source de la propriété privée, et il n'y a pas non plus de division du travail organisée, enfin, en dehors de la division naturelle du travail, et il n'y a pas non plus par conséquent de classe antagoniste, il n'y a pas d'État, même s'il y a évidemment des différenciations à l'intérieur du clan, où il n'y a pas ce qu'on peut appeler des classes antagonistes et un État. C'est pourquoi ce type de société aurait connu, mais ça c'est une hypothèse d'Engels, aurait connu un mode de production qu'il désigne sous le nom de communisme primitif. Alors voilà pour les forces productives, mais les rapports de production, bon, les rapports de production sont les rapports entre les hommes dans la production, ce sont d'abord, et là dans l'organigramme il y a une inexactitude, ça n'a pas été bien relevé, parce qu'il faudrait commencer par les formes de propriété des moyens de production. Évidemment, ça part de la propriété des moyens de production. Selon que la propriété, que les moyens de production essentiels sont la terre, par exemple, ça correspond à certaines forces productives. Si c'est l'industrie, ça correspond à d'autres forces productives. Et selon que nous avons telle ou telle force productive, nous avons aussi telle ou telle forme de propriété. On l'a vu, on vient de le voir pour les sociétés primitives. Quand il est possible, quand le développement des forces productives est tel qu'il est possible de conserver des gens, des prisonniers par exemple, au lieu de les supprimer, parce que ça ferait trop de bouches à nourrir, eh bien, il est plus utile d'en faire des esclaves. Ça établit, ça ne veut pas dire que tous les esclaves sont des prisonniers, parce qu'après l'esclavage se développe comme type de rapport de production, et on fait toutes sortes d'esclaves avec toutes sortes de moyens, mais le premier moyen était probablement celui-là, et nous établissons une certaine forme de propriété qui est la propriété sur les esclaves, la propriété des esclaves qui travaillent, ça peut être une propriété commune, ils peuvent travailler sur la propriété communautaire des citoyens actifs, ou sur la propriété d'État, puis après sur la propriété privée, mais le rapport fondamental, rapport de propriété fondamentale, est le rapport maître-esclave. Dans les rapports de production, il y a la position des différents groupes dans la production qui découle de la propriété elle-même, de la forme de propriété elle-même. Il est clair que ça n'est pas les maîtres qui vont travailler, ce sont les esclaves. Ce ne sont pas les seigneurs féodaux qui vont travailler, ce sont les serfs, ce ne sont pas les capitalistes qui occupent telle ou telle place dans l'entreprise, ce sont les salariés. Donc, de la forme de propriété découle la situation des divers groupes sociaux dans la production. Découle en même temps la forme de répartition des produits, de distribution, de répartition des produits. Clair que c'est le maître qui va s'accaparer l'essentiel de la production de l'esclave, que c'est le seigneur féodal qui va s'accaparer une bonne partie de la production du serf, que c'est le capitaliste qui va s'accaparer la plus-value. On peut ajouter d'ailleurs à ce tableau, c'est pas là, mais ça découle aussi, que des rapports de production, de la position des groupes dans la production, de la forme de propriété des moyens de production, va découler aussi le niveau de formation, le niveau d'éducation, si vous voulez, qui sera donné à tel ou tel groupe dans la production, à tel ou tel groupe social. Alors, le rapport maintenant entre les forces productives et le rapport de production, c'est-à-dire le rapport contradictoire, à la fois d'unité et de contradiction. Il y a unité parce que le fonctionnement de l'ensemble, de la base économique, s'établit nécessairement à partir d'une certaine cohérence entre les forces et les rapports de production. Il y a contradiction parce qu'il y a, et pour le moment je ne parle pas des hommes en tant que hommes subissant ou ayant une position dans les rapports, il y a contradiction parce qu'il y a un développement inégal, et ça est dit dans l'idéologie allemande, ça n'est peut-être pas répété plus tard avec insistance sur ce point. Il y a un développement inégal, les forces productives se développent beaucoup plus vite. C'est l'élément mobile, le plus mobile. Les rapports de production, eux, ont tendance, au contraire, à stagner, à se figer. Pourquoi ? C'est bien compréhensible. Parce que ceux qui bénéficient de ces rapports de production, ceux qui en profitent, font tout pour les maintenir. Alors nous verrons tout à l'heure, si nous avons le temps, le problème des superstructures, mais ça entre en jeu. Ils font tout pour les maintenir, tandis que les forces productives dépendent, le développement des forces productives dépend d'innovation, de développement scientifiques, le développement technique, qui ne se produisent pas bien entendu au hasard, mais qu'on ne peut pas toujours contrôler. Et il y a un moment où ces forces productives font une pression, constituent une pression, parce qu'elles entrent en contradiction avec des rapports de production donnés. L'exemple le plus classique, si vous voulez, c'est pas la peine d'en sortir pour le moment, c'est celui de l'essor de la bourgeoisie et de la Révolution française, et de la Révolution d'ailleurs bourgeoise européenne, pas seulement française. Il y a un développement continu des forces productives à partir, disons, du 14e, 15e siècle. L'éclosion d'inventions techniques, machines à vapeur utilisées dans le textile, qui ne peuvent pas, qui appellent une autre forme de travail, d'autres rapports sociaux, une autre organisation d'ensemble de la société. Avec la société féodale, qui garde le paysan à la terre, qui empêche la circulation des hommes, qui met des entraves à la circulation des marchandises, qui groupe en corporations étroitement spécialisées et figés aussi dans leur technique ceux qui tout de même se sont rassemblés dans les villes, le développement des forces productives est entravé. Or, il y a une classe sociale qui voit son avenir dans ces forces productives, dans le développement de ces forces productives, c'est la bourgeoisie. Parce que la contradiction entre forces productives et rapports de production est aussi une contradiction entre les hommes, ou plutôt une contradiction entre les classes. Puisque les rapports de production sont des rapports entre les hommes et par conséquent aussi entre les classes. Et cette contradiction, à un moment donné, éclate. Les forces productives ont besoin, pas seulement en tant que force, mais par les hommes qui les poussent en avant, de s'épanouir dans l'ensemble de la société. Et les anciens rapports de production deviennent de plus en plus, qui apparaissent de plus en plus figés, de plus en plus caduques. Et ça se termine, alors Marx le dit dans la suite du texte, à un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou ce qui n'en est que l'expression juridique avec les rapports de propriété, alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins lentement ou rapidement toute l'énorme superstructure. Donc nous avons, avec la théorie du mode de production, une théorie de la révolution. Elle est incluse dans cette théorie du mode de production. Un mode de production n'est pas quelque chose d'éternel. Un mode de production est le siège de contradiction entre force productive et rapport de production, entre classes, et donc une révolution est contenue en quelque sorte dans un mode de production. Alors nous en arrivons, parce qu'il faut aller vite, à la théorie des, justement, de ces changements, de cette succession des rapports de production. Et là, ça pose des problèmes. En effet, on a parlé On peut trouver ça à la rigueur même dans ce texte. On le trouve surtout chez Engels.
Mais on le retrouvera alors affirmé vraiment catégoriquement chez Staline. Il y a cinq stades.